Actualité. Jusqu'à 15h, vous écoutez Midi Actualité au 1077 Estrie.
14h24, notre rendez-vous du mardi pour le droit et politique avec le professeur agrégé Guillaume Rousseau de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Journée quand même marquante politiquement pour le Parti québécois, un parti quand même que vous connaissez bien.
Ben oui, certainement.
Plusieurs annoncent leur départ. Certains, c'était prévisible, mais pour d'autres, peut-être plus de surprises.
Oui et non, c'est-à-dire, bon, les cas de François Gendron, de Nicole Léger, évidemment, c'était prévisible, ouais. Question d'âge, de santé et tout. Alexandre Cloutier, c'était prévisible, oui et non, parce que, bon, il est jeune, donc il aurait pu continuer à faire de la politique, évidemment, dans un comté assez sûr pour le Parti québécois et tout. Mais en même temps, deux défaites à la course à la chefferie, puis même avant la fin de la dernière course à la chefferie, il y avait déjà des rumeurs comme quoi qu'il y avait peut-être une place qu'il attendait dans un bureau d'avocat ou quoi. Bon, il avait nié ça, mais on se doute bien qu'il va avoir d'autres opportunités, donc... C'est peut-être pas si une surprise que ça. Quand on veut être le chef, ben c'est difficile après ça de se contenter d'être deuxième. Quand on échoue deux fois à devenir chef, on peut difficilement imaginer une troisième course à la chefferie. Donc, quoi que Mme Marois, il a fallu attendre une troisième fois pour y aller. Mais donc, c'était peut-être pas si surprenant que ça non plus.
Agnès Maltais, c'est quand même un membre influent du Parti québécois et surtout pour la région de Québec.
Ouais. Donc là aussi, elle aussi, ça fait, t'es ministre à la fin des années 90, elle était déjà ministre et tout, là. Donc, l'âge joue aussi. Puis c'est l'effet élection à date fixe, là. À l'époque où les élections étaient pas à date fixe, on le sentait 2-3 mois à l'avance. Là, on le sait, très longtemps en avance. Donc, à 9 mois d'élection, c'est normal que t'aies des réflexions comme ça. Donc, c'est pas mauvais. D'autant plus qu'on dit que le Parti québécois a besoin de se renouveler. Mais c'est pas évident de se renouveler avec les mêmes vieux visages, même si c'est des gens qui sont de très grandes valeurs. Alors, c'est peut-être pas mauvais si, et seulement si, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y a des annonces de candidatures prestigieuses pour le Parti québécois.
Et des pointures, c'est ça, là.
C'est ça, là. Tout va dépendre de ça. C'est une opportunité, mais encore faut-il qu'elle soit saisie. Mm. Et donc, on verra dans les prochaines semaines si c'est le cas.
Et stratégiquement, est-ce que ça aurait pas été préférable, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire d'évacuer ça avant les fêtes? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, on perd un peu la mémoire à court terme, là, politiquement parlant.
Ouais, ouais.
Puis d'arriver début janvier, puis justement commencer tranquillement à laisser sortir des noms, à avoir de ces rumeurs de candidatures qui peuvent frapper l'imaginaire. Ouais, stratégiquement, ça aurait peut-être été mieux, non?
Ouais, ben, c'est-à-dire, oui, d'un sens, pour le parti, si les départs avaient pu être avant les fêtes, puis là, qu'on
avait
un
chef,
plus un message politique. Ça, je comprends ça, mais je pense que sur le plan personnel, c'est Alexandre Cloutier le disait ce matin comment les politiciens vivent à 200 km à l'heure, puis pour avoir déjà travaillé à l'Assemblée nationale, je le sais que c'est vrai. C'est des gens qui arrêtent jamais. Puis le seul moment qui arrête, c'est un peu l'été puis un peu dans le temps des fêtes. Donc, que ces gens-là aient pris le temps des fêtes pour parler à leur famille puis prendre cette décision-là, je pense que c'est juste normal. Puis c'est pour ça que ça arrive là au retour des fêtes, ce qui est peut-être pas l'idéal pour le parti. Mais en même temps, moi, je me dis que s'il y a des candidatures fortes qui sont pour être annoncées pour le Parti québécois puis pour d'autres partis également, que ça se fasse peut-être plus proche de l'élection, c'est peut-être plus au printemps que début janvier. C'est peut-être pas mauvais non plus, là.
Donc, mais ça prend au moins 6 mois.
Ouais, pour faire le terrain et tout.
Si c'est un nom, c'est une chose. Ouais. Tu sais, c'est quelqu'un de connu dans son patelin puis dans sa circonscription. C'est plus facile pour la suite des choses. Ouais. Mais si quelqu'un est juste connu de sa famille, c'est bonne chance là à 6 mois d'une élection.
C'est pour ça que les élections à date fixe ça a cet avantage-là. Les gens peuvent devenir candidats plusieurs mois d'avance et faire le travail terrain. Mais à date, ça, on n'en voit pas tant que ça. Ouais. Quelques cas à Montréal, la candidate du PQ dans Sainte-Marie-Saint-Jacques qui s'est annoncée. Il y a quelques cas, mais c'est vrai que c'est pas des masses comme on aurait pu penser, mais c'est une première élection à date fixe dans 150 ans que le Québec a des élections comme ça dans le cadre du Canada actuel. Alors,
on a deux exemples quand même que peu importe les candidats, peu importe le temps qu'ils ont pris avant l'élection pour confirmer leur candidature, il me vient en tête rapidement la candidature de Steve Lussier à la mairie de Sherbrooke, une couple de mois.
C'est vrai, mais dès le mois de juillet, il était sur le terrain, beaucoup. Mois d'août, je l'ai vu beaucoup, donc quand même 3-4 mois.
Mais sans être officiellement candidat, mais tu sais, juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 mois.
Ouais.
Ça va vite. Et la fameuse vague orange où on a élu des no-names, des puceaux de la politique.
Non. C'est sûr que s'il y a une vague là, de cette ampleur-là, peu importe le travail qu'on fait 6 mois d'avance, c'est pas. Mais s'il y a pas, si la tendance se maintient, puis ce qu'on voit là dans les sondages pour Sherbrooke, là, c'est une course à 4. Tu sais, ça va de QS qui est un peu en dessous de 20%, au Parti québécois à 30%, les libéraux à 27, la CAQ à 22. Là, si on regarde tout close to call, là, le site. Donc c'est extrêmement serré. Alors s'il y a pas de vague, ça veut dire que chaque geste, chaque sortie, chaque appel, chaque bénévole qui donne du temps fait la différence. Ouais. Donc ça vaut la peine de se positionner au bon moment, de sortir avec des idées d'avance. Je pense que ça peut jouer de sortir d'avance. Puis on le voit que le député libéral qui annonce se représenter se prive pas de faire des annonces. On le voyait encore ce matin. Donc c'est, ça serait normal que les candidats d'opposition. Puis on voit déjà M. Vachon qui était dans la tribune en fin de semaine. Je pense que on va les entendre aussi. Puis c'est mieux qu'on les entende plus tôt que tard pour la démocratie, pour les partis d'opposition, mais pour la démocratie, ça va être bien de.
Et dans votre cas, votre réflexion se poursuit?
Ça avance très bien. Je pense faire une annonce dans les prochaines semaines. Vous serez dans les premiers au courant.
Un mot sur... c'est assez incroyable parce que là, tout le monde se mobilise, tout le monde a son mot à dire au Québec concernant la légalisation de la marijuana. D'ailleurs, la province qui est un peu pris avec tout ça, en sachant même pas du comment le fédéral, qui est le législateur sur le sujet, s'oriente. Et là, c'est fou, là, avec toute la commission parlementaire, ce qui est entendu actuellement, les pharmaciens s'en mêlent, la police, tout le monde a son mot à dire. Mais on ne sait même pas où on s'en va avec ça, la loi du fédéral.
Tout à fait. C'est que là, on est dans un cas de partage des compétences avec le fédéralisme et tout. Donc, le fédéralisme s'occupe du droit criminel, la poste, qui pourra jouer un rôle en matière de livraison. Le Québec, lui, sa compétence est propriété droit civil, donc les permis pour la vente, les questions de possession et tout. Les municipalités qui s'occupent de nuisances, de sécurité publique, de zonage, qui ont une compétence générale sur le bien-être. Fait que tout le monde a un petit peu son mot à dire. Et la règle, c'est que, parce que là, on parle beaucoup des municipalités qui sortent, qui annoncent ces jours-ci des interdictions là, de consommer dans les lieux publics. Une municipalité, normalement, peut adopter une norme plus sévère que le gouvernement du Québec. Donc, c'est pas parce que le gouvernement du Québec dit à 10 mètres d'un édifice public, vous pouvez commencer à fumer, parce que là, on pense que ça va être la même règle pour le tabac que pour le pot. Là, c'est ce qui est annoncé. Ça veut pas dire que la municipalité peut pas dire, ben moi, je l'interdis même à 10 mètres des lieux publics. Normalement, une municipalité peut avoir une norme plus sévère, pas moins sévère. Faut pas que ce soit en totale contradiction, de sorte qu'on peut pas respecter à la fois la loi et le règlement municipal. Dans ce cas-là, c'est la loi qui l'emporte. Mais si le règlement municipal fait juste être plus sévère que la loi, puis qu'on peut respecter les deux en même temps, normalement, le règlement municipal peut continuer de s'appliquer. Et là, c'est ce qu'annonce Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu, donc des interdictions là de consommer en public, dans les rues et tout, un peu comme l'alcool. Et Sherbrooke n'a pas encore annoncé sa décision. Le maire se dit très préoccupé, en réflexion. Puis il y a d'autres alternatives, comme Lévis annonce, elle, probablement qu'elle va interdire seulement dans les parcs. Ça pourrait être permis dans la rue, mais pas dans les parcs. Donc, il y a plusieurs modalités possibles. Puis certains vont critiquer ça. Certains vont dire, ben là, ça n'a pas d'allure. Selon la ville où vous allez être, il va y avoir des règles différentes. Mais c'est un peu ça le but de créer des municipalités. Là. Si on voulait les mêmes normes partout, là, le gouvernement du Québec pourrait très bien faire le travail. On n'aurait pas besoin de municipalités.
Une ville, une province.
Ben, c'est ça. Là. Si on a des municipalités, puis si on fait des élections municipales, puis Dieu sait qu'on vient d'en faire, puis qu'il y a quand même un exercice démocratique important, mais c'est justement pour permettre à des élus locaux d'adopter des normes différentes selon le territoire, selon les sensibilités. Puis ça se peut qu'à Québec, ce soit plus sévère qu'à Montréal, puis qu'à Sherbrooke, on soit quelque part entre les deux, eu égard aux règles là, qui vont encadrer le pot. Donc, moi, je suis pas. Je veux dire que les gens se mobilisent. Si les gens veulent le droit de fumer du pot partout, qu'ils se mobilisent, qu'ils fassent des pétitions, qu'ils aillent voir leurs conseillers municipaux, puis ils auront un impact. Même chose pour les non-fumeurs qui veulent se protéger en interdisant ça. Je veux dire, d'un côté comme de l'autre, je pense qu'avec un gouvernement de proximité comme la municipalité, les citoyens sont en moyen d'exercer une grande influence là-dessus, puis c'est bien, bien correct comme ça.
Et là, il y a aussi l'autre débat, c'est-à-dire le pot récréatif versus le pot médical, médicinal.
Ouais, c'est important de faire la distinction.
Parce que là, les pharmaciens viennent dire, attends un peu, ça peut pas se vendre n'importe où, n'importe comment. Si on aura la Société québécoise du pot pour le récréatif, là, on vient dire, pour le médicinal, il faudrait peut-être aussi s'adresser à ceux qui parlent santé. C'est un peu ça que moi, j'ai attrapé comme message des pharmaciens, puis il faudrait pas que les deux se retrouvent à la même place.
Oui, puis ça parlait des dangers de l'automédication.
Exact.
À partir du moment où à des fins récréatives, c'est possible, c'est possible, ben là, il peut y avoir des gens qui disent, ben moi, j'ai des petits problèmes d'appétit, fait que je vais me claquer un petit joint le soir, c'est pas aussi simple que ça. Donc, effectivement, je comprends pourquoi les médecins, les pharmaciens sont très préoccupés. Puis là, on voit que ça fait beaucoup de monde, que ça fait des ordres professionnels, c'est pas rien, une société, les ordres professionnels comme les pharmaciens, les médecins, on a les municipalités dont on parlait à l'instant, on a les Cégep qui viennent de sortir pour dire que ça les intéresse pas d'avoir des jeunes en possession de potes. On a les propriétaires de logements.
Non, ben, t'as peu, là. Dans l'environnement du Cégep, on se fera pas de cachette que quand même, il y en a du pot, là.
Ouais, mais... Ben... c'est comme l'alcool, il peut en avoir, mais si c'est interdit, il peut aussi avoir des gardiens de sécurité qui viennent agir, puis bon,
je comprends.
Mais ça n'empêche pas qu'ils envoient le message qu'ils en veulent pas. Il y a les propriétaires d'immeubles privés qui nous disent on veut pas de ça, nous, puis c'est possible.
Compréhensible.
Dans un bail, c'est possible d'interdire ça, donc ça
on
fait
interdit la cigarette.
Ben oui, exactement. Alors, c'est tout à fait possible. Il y en a qui disent que bon, et puis, par exemple, si t'as des fins médicales, on peut penser que c'est de la discrimination de l'interdire quand les gens en ont besoin pour des fins de santé. Mais outre ça, je pense que ça tient la route de l'interdire dans le bail, là, juridiquement parlant. Ouais. Fait que ça fait beaucoup de monde qui lève des boucliers, qui résiste face au fédéral, qui veut passer ça comme un bulldozer. Puis on s'entend, moi, je pense que c'est une bonne idée. Puis je pense qu'il y avait trop d'argent public qui était donné dans la répression de ça. Ouais. J'ai même connu ça, moi, dans les écoles publiques de Sherbrooke dans les années 90. Là, la police qui débarquait, qui interrogeait les jeunes, comme si il n'y avait rien de mieux à faire. Là. C'est ça. Comme si c'était la meilleure façon. Puis après ça, les travailleurs sociaux. Puis donc, l'argent public était mis là-dessus. Mm-hmm. Bon, évidemment, ça va continuer parce que les mineurs, il va falloir continuer de faire attention. Mais c'était comme un peu abusif, l'argent qui était mis là-dedans pour la répression. Donc, c'est correct comme décision, mais maintenant, c'est la façon de le faire. Puis le fédéral aurait dû prendre son temps, consulter les municipalités, les provinces et tout. Mais là, il fait ça par idéologie libérale-libertaire. Il fait ça aussi parce qu'on voit là, les permis de production, ça va en Ontario à des proches du Parti libéral du Canada. Puis Trudeau aussi, il faut qu'il livre quelque chose parce que là, il livre pas sur la réforme démocratique.
Non, c'est ça.
En environnement, il livre pas. Il y a plein de dossiers où il livre pas. Donc là, c'est la seule affaire qu'il peut livrer. Et là, il le fait de manière précipitée. Alors, c'est normal que les citoyens se tournent vers leur gouvernement de proximité ou vers leurs institutions ou vers les moyens qu'ils ont pour offrir un peu de résistance.
Professeur,
là où les gens le souhaitent, là, offrir une résistance.
Je donne un exemple. C'est comme si le fédéral faisait pousser un pommier puis que tout le monde était en dessous pour attendre ce qui va se passer avec où c'est que les pommes vont tomber.
Finalement, ça tombe sur la tête de tout le monde. Là.
Ben c'est ça, parce que le fédéral dit pas grand-chose de sa légalisation.
Non, c'est ça.
Il y a à peu près rien, puis en bas de tout ça, tout le monde tente de s'organiser puis se mobiliser, mais on sait pas ce que la tête va décider.
Exactement. On sait qu'il va légaliser, mais après ça, c'est comme s'il s'en lave les mains, alors que l'idée, c'est pas de dire, c'est faut surtout pas banaliser, puis avec notre premier ministre adolescent, M. Trudeau, des fois, ça ressemble à une banalisation, alors que ce qu'il faudrait, ce serait pas banaliser, mais passer d'une approche de répression policière qui manifestement donne pas de bons résultats à une approche plus sociale.
Exact.
De dire aux jeunes, non, c'est pas une solution, fumer du pot, mais maintenant, on peut t'aider à décrocher de telle manière. Alors, c'est ça, puis ça relève beaucoup des provinces, des municipalités, le social, et c'est ça qui est pas là. Il y a pas cette vision-là. Alors, c'est dommage, puis c'est ce qui fait la résistance des municipalités et tout. Puis peut-être que la solution va être un peu là. Peut-être qu'au départ, les municipalités puis d'autres instances vont être plus dans l'interdiction. Puis progressivement, si effectivement, il n'y a pas de banalisation puis il n'y a pas de problème, on pourra ouvrir les portes puis...